Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, y compris les embouteillés. Je suis très heureux de vous accueillir en direct dans ce Masque et la Plume spécial consacré, vous le savez, au palmarès du 75e Festival de Cannes. Un festival qui, après les années Covid et l'édition de l'an passé présentée en plein mois de juillet, avait retrouvé sa forme, son prestige, ses étoiles. Ce fut plus que jamais le grand rendez-vous mondial du cinéma. Et pour commenter cette distribution des prix qui s'est déroulée hier soir, il y a autour de moi les yeux fatigués, le teint hâve, le souffle court, Charlotte Lipinska.
Bonsoir,
de
Jérôme.
Vogue, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et bien sûr d'une heure en série tous les samedis sur notre chaîne, Michel Simon, le maître de la critique de Positif, et Eric Nehoff du Figaro. Eric qui publie d'ailleurs ces jours-ci un petit éloge amoureux des cinémas chez Privat, où il raconte que le Festival de Cannes a rythmé sa vie depuis 40 ans. J'ai l'impression que c'est là que tu vas finir tes jours.
J'espère que non.
Si je t'ai bien lu.
Ça dépend des années, en tout cas.
À ceux qui auraient manqué l'événement, je rappelle vite que le festival s'est ouvert le 17 mai, lors d'une soirée assez mémorable, il faut dire, au Grand Théâtre Lumière, pendant laquelle est intervenu en direct et en visio le président Zelensky, qui en a appelé à Charlie Chaplin, avant que Vincent Delerme fasse chanter « Que je t'aime » aux robes longues, au smoking et à Xavier Le Herpeur, et que surgissent enfin les étranges zombies de Michel Hazanavicius. Et le lendemain, pour le bonheur d'Éric, la patrouille de France survolait le bunker pour saluer le pilote Tom Cruise et la présentation de Top Gun, dont on parlera d'ailleurs dimanche prochain au Masque et la Plume. Rappelons enfin que le jury était présidé par un Vincent Lindon très motivé, j'allais dire survitaminé, très investi en tout cas. Il était entouré d'actrices, la Britannique Rebecca Hall, l'Indienne Deepika Padukone, la Suédoise Naomi Rapace, l'Italienne Jasmine Trinca, et de réalisateurs, l'Iranien Asghar Farhadi, le Français Lajli, l'Américain Jeff Nichols et le Norvégien Joachim Trier, un jury qui avait à juger 21 films du monde entier, signés notamment Valeria Bruni-Tedeschi, David Cronenberg, Albert Serra, Arnaud Desplechin, James Gray, Christian Mungiu, Kelly Richards, Kirill Serebrennikov. Vous avez compris que je cite ici tous les oubliés du palmarès dont on va parler dans quelques instants. D'abord, une petite question liminaire. Le 17 mai, lors de cette ouverture dont je parlais, Vincent Lindon a évoqué un festival hors normes et le cinéma comme arme d'émotion massive. Est-ce que c'est votre avis? Ça a été vraiment un festival hors normes, le 75e, Charlotte?
Non. Alors, hors normes dans le sens où on était quand même très heureux de retrouver l'énergie de la ville, l'appétit de cinéma qu'on avait tous et qui était quand même un peu coupé depuis certains temps.
Et la fin du festival virtuel.
Voilà. Mais c'est vrai que sur cette édition, globalement, même s'il y a beaucoup de bons films qui étaient sélectionnés, en tout cas en compétition, très clairement, moi, il m'a manqué un engouement, un titre qui fasse l'unanimité, qui nous porte tous, mais il m'a manqué des révélations aussi, c'est-à-dire que d'habitude, chaque année, j'ai la révélation d'un cinéaste en compétition, et là, ça n'a pas été le cas. C'était que des réalisateurs qu'on connaît tous, qui étaient là pas forcément pour leur meilleur film, et donc je n'ai pas eu cette joie immense qu'on a quand on découvre un cinéaste à Cannes.
Xavier, festival hors norme.
Diplomatiquement, effectivement, la compétition était un petit peu mineure, un petit peu faible, on va en revenir dessus. En revanche, hors norme, oui, parce que moi j'ai réussi à peu près à avoir une cinquantaine de films et j'ai vu énormément de premiers films qui effectivement ne sont pas parfaits mais qui témoignent d'une vitalité, d'une envie de cinéma, là où les grands maîtres visiblement étaient un petit peu fatigués.
Mais là tu parles hors compétition officielle.
Oui, mais c'est pour ça, je veux dire, le Festival de Cannes c'est aussi un certain...
Alors bien sûr, si on prend tous les parallèles, moi je ne parlais que de la compétition.
Non mais moi c'est ce qui m'a nourri aussi, c'est-à-dire que même si je suis très très déçu par la compétition, il y a eu dans l'Officiel, à la Quinzaine, à la Semaine et à la Cible, des choses qui m'ont donné, mais vraiment qui m'ont rassuré sur l'état de la jeunesse et de l'appétit de certains jeunes auteurs de tout pays venant. Le meilleur film pour moi, tout confondu, c'est peut-être un film pakistanais, un premier film qui était porter un certain regard. Et rien que pour ça, bah, moi, ça me ravit. Voilà, ça me nourrit et ça me ravit.
Eric ?
Hors norme, à moitié. J'ai trouvé la première semaine exceptionnelle et la deuxième désastreuse. Et surtout, j'en veux beaucoup aux sélectionneurs français de nous avoir imposé ces films tous plus calamiteux les uns que les autres. Je pense qu'on devrait pour eux rétablir soit le bagne à Cayenne, soit le goudron et les plumes, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça.
Oui, mais ils pourraient tourner des films là-bas, je pense.
À Michel.
Je dirais que, un peu comme Eric, une première semaine où j'ai découvert des films assez remarquables de grands cinéastes, ce que je constate, c'est que c'est vrai que la critique en général est plus sévère à Cannes que dans l'année. C'est-à-dire que quand on regarde les listes des 10 meilleurs films de l'année, les critiques, il y a toujours 4 ou 5 films sur 10 qui étaient présentés à Cannes. Or, on a l'impression, on vient de l'entendre, que Cannes n'avait pas un seul grand film. Je pense qu'il y a eu des grands films, souvent absents du palmarès, qui est très, en particulier, assez décevant dans l'ensemble. Mais par contre, des films magnifiques qui étaient de grands cinéastes.
Alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que pendant cette édition, dont en tout cas on a beaucoup parlé dans la presse, on a rarement autant parlé du Festival de Cannes, sont tombés les chiffres de fréquentation des salles et eux sont absolument calamiteux. Et on découvre que voilà, la vitrine cannoise est peut-être très belle, très riche, très avenante, mais que la réalité de la fréquentation du cinéma, donc la, de tout le monde, est-ce que vous pensez que ce festival peut faire un peu évoluer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'augmentation de la fréquentation des salles ?
Bah, en tout cas, on l'espère, évidemment, mais c'est vrai que les films qui étaient les plus rassembleurs et qui ont créé l'émeute en bas des marches, que ce soit Top Gun ou Elvis, n'ont clairement pas besoin du Festival de Cannes pour trouver leur public. De toute façon, les films vont cartonner à leur sortie. Et moi, j'espère, c'est-à-dire on est toujours très attentif à l'ordre dans lequel les films du palmarès vont sortir dans les salles, parce que si le premier, le deuxième trouvent un public et satisfait les gens, ça peut créer un phénomène d'entraînement pour qu'ils se disent « Ah oui, c'est vrai, il y a ce label Cannes, enfin ça nous a plu, on y retourne ». Malheureusement, la plupart des films vont sortir à l'automne, donc c'est un peu loin, et j'ai quand même assez peur qu'ils se noient dans la masse de tout ce qui sera proposé à ce moment-là.
Mais la météo a beaucoup joué contre le cinéma aussi. Il a fait un temps radieux depuis 15 jours et les gens avaient autour.
Ça, on dit ça tous les ans.
Ah non, 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 là c'était exceptionnel.
Non, mais plus concrètement, l'effet cannois, on le voit quand même sur deux films de la compétition qui sont sortis en même temps, Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin et L'écrit du futur de Cronenberg. Je ne parle même pas de l'ouverture.
Et même Coupé de Hazanavicius qui est sorti.
Et les trois films, je suis désolé, il y a un terme objectif pour ça, sont des échecs au box-office. Je ne parle pas de la critique, je parle simplement des résultats qui sont extrêmement décevants. Donc, pardon, mais j'ai l'impression que ça répond un peu à la question. Non, j'ai
donc la vitrine cannoise ne suffit pas
amplement pas.
Mais c'est aussi le problème Michel. Du film d'auteur. Ouais. C'est-à-dire ce qui a fait la grandeur de l'exploitation en France, c'était les films d'auteur. On était le pays au monde où les gens allaient le plus voir les films de metteurs en scène réputés. Et aujourd'hui, ce public qui était surtout chez les gens âgés a diminué parce que ils ont pris l'habitude de rester chez eux, ils regardent Netflix, etc. Ça, c'est vrai qu'il y a une compétition et les salles en souffrent. Et il faut attendre la rentrée pour voir ces films dont je parlais, dont on va parler maintenant, ce qu'ils vont faire
alors,
à la rentrée.
Parlons de ce palmarès, il est 20h. 13, 14 même sur France Inter, vous écoutez un masque et la plume spécial consacré donc à ce palmarès qui a été donné hier soir sur le service public, parce que ça aussi c'est une première, hein, c'est un festival de Cannes sans canal, mais avec le service public, et ça a été une belle chose je trouve. Donc la Palme d'Or a été, vous le savez tous, décernée au Suédois Ruben Östlund pour ce film qui dans son sens originel et triangle de la tristesse, qui devient en français sans filtre, je ne sais pas si sans filtre est très prescripteur, on verra, ce film qui nous embarque donc sur un yacht pour une croisière de luxe de 2h30 avec un couple de mannequins et influenceurs jusqu'à une tempête qui va être décisive, équivaut ce film, qui est un film inter d'ailleurs entre parenthèses, qui vaut une deuxième palme d'or après celle qu'il a obtenue en 2017 pour The Square, à Ruben Östlund, Palme d'Or d'ailleurs, Eric, qui avait été annoncé par ton journal, Le Figaro, la veille de la distribution des prix.
Non, c'était notre choix, c'était pas un pronostic, hein,
oui,
c'était parce qu'on voulait que ce soit ce film.
C'était avant en tout cas, ouais, que Vincent Lindon ait donné le nom et le titre. Donc,
et ça ne nous arrangeait pas du tout parce qu'on préfère être à contre-pied, c'est la deuxième fois avec Östlund qu'on se retrouve conforme au goût du jury. Mais tout le monde sait que c'était très inattendu, ce choix. Personne n'aurait misé un euro là-dessus.
Alors, dis-nous pourquoi tu l'as aimé.
Moi, je l'ai aimé parce que c'est un vrai film anarchiste. C'est un film sur la corruption des âmes, sur ce que fait l'esthétique aux gens, la fortune, la richesse, et ce que c'est que le règne du paraître, est filmé par un type qui met la beauté formelle en avant, qui s'est très très bien filmé, et c'est fait sous forme de chapitre. Ça y va au lance-flamme, il y a quelque chose d'une grande bouffe avec quelqu'un qui sait tenir une caméra, et c'est...
Enfin, la grande bouffe ne durait pas 2h30, hein.
Non, mais
ça durait plus de à mon avis.
C'était assez long, la grande bouffe. Mais là, il y a quelque chose de réjouissant, encore plus que dans The Square. Ce côté anarchiste, c'est un film que les gens ne peuvent pas supporter. Et je vais vous faire une confidence. J'ai rencontré le réalisateur qui m'a dit, j'ai tourné ça pour embêter Xavier Le Herpeur. Et je pense qu'il a réussi.
Xavier n'a pas encore parlé, hein. Michel, même sentiment que Eric?
Oui, c'est un très beau film. J'y croyais pas non plus pour la Palme d'Or. C'est vrai que le Triangle des Bermudes a détesté ce film, qui est le Triangle de la Tristesse. J'ai trouvé, au contraire, que c'est un film, je suis d'accord avec Eric, mais c'est un film d'un pessimisme total sur la situation du monde. Ça reflète parfaitement le chaos intellectuel et moral de notre époque. Et j'ai pensé à des gens comme Ferreri, comme Buñuel, des grands anarchistes, effectivement, tu as raison, qui baignent dans le pessimisme, avec un sens formel, un sens de l'image, parce que c'est tous les lieux qu'il choisit de filmer, aussi bien la scène du naufrage d'un navire, une scène sur une crique,
un dîner entre un homme et une femme aussi.
Et il y a une première séquence éblouissante, enfin c'est pas tout à fait la première, entre deux une femme et un homme qui doivent régler l'addition, qui est irrésistible et joué merveilleusement parce que les acteurs sont formidables. Donc je pense que c'est un choix qui d'ailleurs ne correspond pas avec le palmarès, parce que le palmarès va plutôt vers des films gentils.
On va en parler après.
Mais c'est curieux que ce jury ait choisi en premier un film qui ne correspond pas à ses goûts par ailleurs.
Xavier?
Je suis ravi de savoir qu'il fait du cinéma pour m'emmerder, ce qui prouve quand même la pauvreté de l'ambition et de l'inspiration de ce cinéaste suédois.
Dont je rappelle le nom, Ruben Östlund.
Voilà, je commence à détester, mais de façon extrêmement personnelle. Ça, tu as raison, Eric, absolument. Et ce Triangle de la Tristesse, ou des Bermudes, selon l'idée que se fait Michel Simon, des critiques qui n'ont pas adhéré à cette satire.
Qui sont très nombreux, y compris certains de nos amis du Masque et la Plume, comme Jean-Marc Lalanne, qui a exprimé dès ce matin son désaccord avec le choix
de
la Palme d'Or.
De mesurer mes mots, même si les premiers qui me viennent à l'idée, c'est abject, poujadiste, je trouve ça effroyable, à tout point de vue. Bon, bah, j'ai pas réussi à te nuancer plus de 30 secondes. Je trouve que c'est écrit à la truelle, que ça se concentre sur des cibles éminemment faciles, les influenceurs, les mannequins, par principe stupide, par principe égocentrique, il n'y a pas vraiment d'art de la nuance, donc je sais pas très bien pourquoi ma critique devrait le comporter. Ensuite, des marchands d'armes, oh là, mais oui, bien sûr, défendons les marchands d'armes. Il se dit marxiste, beaucoup plus qu'anarchiste, hein, vous pourriez quand même écouter votre maître, et marxiste quand on voit le dernier chapitre.
Chabrol disait que la cérémonie était un film
mais
marxiste.
Mais je m'en fous, c'est lui qui l'a dit qu'il était marxiste, je n'invente rien, il l'a déclaré. Il est assez compris. Pour être schizophrène en plus. Donc, et je trouve que c'est un film, on y reviendra, moi c'est un film qui me met mal à l'aise, qui ne me fait pas rire du tout, qui accumule des clichés d'un autre temps. Ça commence effectivement par un journaliste de mode qui interviewe des mannequins. Évidemment, le journaliste est folle au-delà du possible. Et j'ai l'impression qu'on nous fait rire de cibles extrêmement faciles et que si l'on rit, c'est qu'on est du bon côté de la barrière, c'est-à-dire du côté de Östlund, et qu'on ne fait pas partie de ce métier. Mais c'est de nous qu'il parle. Assumons un tout petit peu, des gens qui se battent pour une note de frais. C'est ce qu'on voyait tous les soirs aux terrasses des cafés. À Cannes pour savoir qui allait payer, qui allait rembourser, qui allait quoi. Enfin, je suis désolé, ce mec nous crache à la gueule, et ça ne me dérange pas qu'on me crache à la gueule, mais c'est vraiment d'un principe de si je ris avec lui, c'est que je ne suis pas concerné. Mais bien sûr qu'on est concerné, et que, je suis désolé, la cible, tu nous parles de la déliquescence du monde, mais on le sait, effectivement, tout ça, mais c'est la manière dont il le fait qui n'a aucun intérêt, c'est d'un stérile absolu, et la fin, donc, soi-disant marxiste.
Qu'on ne va pas raconter.
Qu'on ne racontera évidemment pas, mais que je trouve effroyablement de droite. Charlotte. Si j'étais défendu par Le Figaro, je pense que j'arrêterai tout de suite.
Non, mais...
Charlotte.
Alors, je vais le faire demain.
Comment enchaîner après cette nuance de Xavier
Je suis à la hauteur du film. Pardon.
Non. Alors bon, il y a rien de moins universel.
Ce qui est vrai, c'est que le film appelle des réactions forcément.
Évidemment, le film est très clivant.
Michel, sois poli, laisse-la parler.
Une seconde. Je pense qu'il y a beaucoup de génies dans l'histoire de l'art qui sont de droite. C'est absurde de classer les gens en droite et gauche.
Mais il a le droit d'être de droite, il a simplement le droit de ne pas dire qu'il est marxiste.
Bon, Charlotte, s'il vous plaît.
Merci, je ne vais pas rentrer dans ce débat politique parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse dans ce film. Il y a une chose pour moi très claire, c'est que il n'y a rien de moins universel que l'humour. Voilà, on est tous réceptifs à différentes formes d'humour. Et là, c'est vrai, vous citiez Marco Ferreri ou Buñuel. Moi, je percute ça avec les Monty Python parce qu'il y va dans une outrance, un trash, c'est ce fameux dîner du capitaine qui est le cœur du film, la deuxième partie du film. Moi, j'ai ri, je n'en pouvais plus de rire, mais effectivement, il y avait à côté de moi, je voyais un journaliste qui lui restait complètement de marbre. Alors, on ne va pas se battre là-dessus sur est-ce que ça te fait rire ou pas. Sur moi, ça a fonctionné. Je trouve que Ruben Östlund a une faculté à tirer à son maximum la durée des scènes sur une idée. Dans The Square, c'était une histoire de capote qui revenait continuellement dans le film. Et là, cette première scène avec effectivement l'addition de ce couple au resto, il nous fait 25 minutes là-dessus. Et en même temps, sans que jamais ça ne se répète. C'est-à-dire que le couple va plus ou moins s'engueuler en déplaçant la discussion à chaque fois en partant de ce point de départ. Et rappelez-vous, dans Snow Therapy, il nous fait un film d'1h40 qui ne tient que sur une idée qui se passait en 2 secondes, le comportement du mari qui s'était carapaté à l'arrivée d'une avalanche. Et juste sur cette idée-là, il nous avait fait un film implacable, une démonstration implacable du couple. Et donc, je trouve qu'il est un des rares cinéastes qui arrive à tirer à son maximum une idée sans moi jamais m'ennuyer une seconde. Alors oui, c'est outrancier, oui, c'est trash, mais moi, j'ai totalement ri, j'assume. Je lui aurais peut-être pas donné la palme, peu importe, mais je
D'autant
trouve que...
D'autant qu'il entre dans le club très très fermé, des doubles palmés.
Et par ailleurs, il l'a eu très récemment, c'est pas comme s'il l'avait eu il y a 20 ans, donc c'est quand même très cher payé pour ce film-là. Mais moi, je conseille aux gens d'aller le voir pour se faire leur propre idée.
Parce qu'il n'est pas sorti.
Voilà, donc, ça va arriver.
Et pour une fois qu'un Suédois ne nous évoque pas aussitôt le nom de Bergman, faut en profiter.
Oui, et puis il a un univers très singulier. Très clairement, Xavier n'ira pas dîner avec lui et il y est Hermès.
Sauf
moi,
sur un bateau.
C'est un cinéaste.
Il aura vomi
à
avant, Xavier.
Non, mais je me dis que la prochaine fois que mes chiottes sont bouchées, je vous invite, puisque ça vous fait beaucoup rire, des litres de merde qui
et
se déversent sur les grands.
Et on te lira des citations de Karl Marx.
C'est pour vous dire un tout petit peu aussi le degré d'intelligence et de subtilité de ce film.
Michel, oui.
Je veux ajouter très brièvement qu'il est un grand admirateur d'un génie aussi du cinéma suédois, qui est Roy Andersson, que Bergman considérait comme le plus grand cinéaste suédois. Et il y a un esprit commun, anarchiste entre les deux.
Il y a un esprit en plus bavard, quand même.
Très différent.
Alors, si le copain du copain du copain qui aime le copain, ça donne quelque chose sur la qualité du cinéaste. Michel, alors on n'en a pas fini. Hein.
Nous parlions donc de cette palme d'or décernée à Ruben Östlund pour ce film qui va s'appeler En France sans filtre et dont on n'a pas encore évidemment la date de sortie.
Septembre.
Et mon cher Xavier, je te rappelle que c'est un film inter. Nous allons maintenant évoquer la suite du palmarès et évoquer notamment ces deux grands prix ex aequo. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est qu'hier soir, 10 prix pour 21 films.
C'est trop.
En compétition, c'est presque 1/2. Est-ce que trop de prix ne tue pas les prix? C'est une question qu'on peut se poser.
Le meilleur film au final.
Et que qu'il y a beaucoup, on le disait en préambule, de grands oubliés. Donc, partagé en deux, ce grand prix, à la fois à un Belge, Lucas Dont, un des nombreux Belges primés hier soir, 31 ans, à qui on doit ce film qu'on avait beaucoup aimé, qui est Girl, qui avait eu d'ailleurs le prix de la caméra d'or. Et là, c'est un film sur l'amitié brisée de deux ados de 13 ans, dont on nous a beaucoup répété dans la presse qu'il avait fait pleurer les festivaliers, ce qui est une formule en général utilisée pour montrer à quel point un film peut émouvoir. Ce film s'appelle Close, on n'a pas non plus encore de date de sortie. Et l'autre, autre, c'est Claire Denis, une Française, la réalisatrice de Beau Travail, pour son film Des étoiles à midi, d'après le roman de Denise Johnson, qui évoque en 84, pendant la révolution sandiniste, le sort d'une jeune journaliste américaine bloquée au Nicaragua, qui rencontre un Anglais qui, pense-t-elle, va l'aider à fuir le pays. Film auquel, d'ailleurs, toujours toi, Eric, dans ton journal Le Figaro, vous avez collectivement, vous les journalistes du Figaro, décerné, en même temps que la Palme d'Or à Östlund, la Palme de Plomb, donc à ce
ou
film.
Ou la Palme d'Horreur, on aurait pu dire, parce que quand on voit ce truc-là, alors, c'est vraiment...
Un mot sur le Claire Denis, avant.
Tu l'as assez bien résumé, mais c'est un film qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale, parce que c'est tellement soporifique et anesthésiant, c'est un truc où il ne se passe rien. C'est un peu comme du Gérard de Villiers sous Bromure, dans un pays exotique, avec des acteurs tous plus mauvais les uns que les autres, une caméra languissante. C'est pas pour rien qu'elle a travaillé à une époque avec Wim Wenders, parce qu'elle en a gardé toute la mollesse et l'inintérêt. Et c'est quand même très très gênant, là, ce film.
Wenders...
Dans les années 70.
L'emmène pas au Nicaragua, s'il te plaît.
Non, mais on se demande ce que c'est que cet objet, ce que ça fait là. Heureusement, moi j'avais très peur en voyant qu'elle était dans la salle et qu'au fur et à mesure, elle n'avait pas les petits prix. Je me suis dit, ils vont quand même pas lui donner la Palme d'Or. Heureusement, elle faisait un petit peu la tête de partager ça avec le charmant film du Belge.
Charlotte.
Déjà, une chose est sûre, c'est qu'un ex aequo au niveau du Grand Prix, eh bien, la preuve que le jury a vraiment pas réussi à se mettre
mais
d'accord.
C'est un oxymore.
C'est
que
fou. Vincent Lindon avait beau dire, tout a été à la majorité, on ne peut pas le croire une seconde quand il multiplie les ex aequo. Claire Denis, il y a tellement de films qu'on a aimé d'elle, en tout cas moi, parce qu'elle sait filmer les corps merveilleusement. C'était effectivement les militaires à Djibouti dans Beau Travail, mais aussi dans le film de genre avec Trouble Every Day, où ils étaient un peu vampires, film de genre gore, mais qui avait quelque chose de très sulfureux et d'assez beau. Là, moi, je suis passée complètement à côté du film. Et c'est très bizarre parce qu'on l'a vu à 24 heures d'intervalle avec Pacifiction de Albert Serra, qui relève de la même atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère...
Mais ne parlons pas des films qui ne sont pas
mais
en palmarès, parce que sinon,
je suis d'accord,
nos auditeurs
mais en tout cas, en gros, c'est une atmosphère moite, nocturne, sous les tropiques, où on ne comprend pas les tenants et les aboutissants du scénario, mais alors autant chez Albert Serra, on est fasciné par la beauté, autant là, on est exaspéré par l'inanité du film.
Xavier.
Charlotte a raison, moi, c'est une cinéaste que j'aime beaucoup, et j'y ai cru pendant une demi-heure, la première demi-heure, qui est très sensuelle, très moite, et qui est rythmée par du jazz, et ça va très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une fusion
alors,
entre
c'est,
le montage.
Alors, c'est les Tinder Sticks, on va les citer, parce que c'est toutes les musiques de Claire
toutes
Denis,
les musiques,
et c'est sublime.
Déjà le cas. Non, mais je jure, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une fusion entre l'image,
c'est
le
beau,
montage, le corps filmé, et la musique. Donc, je me suis dit, ça ne sera peut-être que cela, mais au moins, il y aura cette force de cinéma qui, malheureusement, s'épuise et s'étiole au bout d'une demi-heure. Et je le dis avec un immense regret, parce que j'aime vraiment beaucoup Claire Denis. J'avais défendu au masque les salauds contre tout le monde,
absolument.
Je me souviens, et je le regrette absolument pas. Et là, le film ne se fait pas, effectivement. Je suis presque obligé, bien sûr, de donner raison à mon camarade Éric Neuf quand il parle d'un
Gérard
Devinier.
C'est le début de la sagesse.
L'émission n'est pas terminée.
C'est vrai que de temps en temps, on dit c'est un épisode supplémentaire d'Emmanuel au Nicaragua et on n'avait pas
là
très
là,
envie de
voir. C'est très très long.
Michel.
Moi, j'ai trouvé le film un film hollywoodien déconstruit. C'est-à-dire qu'on pense, par exemple, à L'année de tous les dangers de Peter Weir, dans un climat exotique, la Révolution, etc. Sauf qu'elle l'a vidé complètement de tout intérêt véritable de l'intrigue. C'est-à-dire le scénario tient sur trois lignes. Je pourrais pas dire que je trouve le film détestable. Je trouve en particulier la dernière demi-heure, dernier trois quarts d'heure, la traque de ces deux amants.
Donc toi, t'aimais la dernière demi-heure, Xavier et
tous les deux réunis.
Et Charlotte aimait la première demi-heure.
Mais moi,
en tout cas, c'est la première fois qu'elle est à Cannes. C'est son 16e film. On l'a enfin accepté à plus de 70 ans dans la compétition. Et c'est un mauvais choix parce que finalement, elle a fait des bien meilleurs films que celui-ci.
Et donc, l'autre grand prix, on a de la chance, et peut-être qu'ils auraient pu en filer trois. C'est donc Lucas Dont, ce Belge, pour Close, avec les tout jeunes Eden Dambrin et Gustave De Well. Est-ce qu'il vous a autant ému et fait pleurer qu'on l'a répété, Charlotte?
Non, malheureusement. Mais je trouve des qualités au film. J'avais beaucoup, beaucoup aimé Girl, qui m'avait vraiment stupéfaite.
C'était l'histoire de la transformation.
Absolument.
D'un jeune garçon en...
Sur un sujet très fort, une mise en scène admirable. Et le film est... Donc là, bref, j'en attendais beaucoup. C'est son deuxième, on l'attendait. Et même si les acteurs sont merveilleusement dirigés, même si leur mère respective, Léa Drucker et Emily Deken particulièrement, qui est toujours impeccable et qui, pour moi, a amené la touche d'émotion finale, je suis étrangement restée un peu en retrait de ce film qui est baigné dans une lumière, un esthétisme qui est très chiadé, qui, je trouve, ne va pas au sujet. Et par ailleurs, il y a une narration un peu elliptique qui fait qu'il élude toutes les scènes fortes et importantes qu'on attend. Et je me demande si c'est, certains vous diront, de la délicatesse,
surtout
de la pudeur.
Surtout qu'on ne peut pas raconter vraiment l'histoire.
Voilà. Et d'autres trouvent, comme moi, que c'est peut-être un peu facile aussi de passer à côté de ces scènes attendues. Après, le film, il est beau, il est très émouvant. Voilà, c'est quand même bien, on va pas arrêter de chipoter, mais ça n'est pas la claque
Xavier,
attendue.
C'est quand même une déception, même en termes de mise en scène, je trouve le film très en deçà de ce qu'il avait fait dans Girl. Je pense qu'il est trop près du sujet. Il dit que c'est un scénario qu'il a écrit quand il était adolescent. Je crois qu'il faut les laisser dans les tiroirs, certains films. Ils sont nécessaires à écrire, ils sont exutoires, mais peut-être pas les porter à l'écran. Et je suis entièrement d'accord avec toi, trop d'ellipses tue l'ellipse. Il rentre pas dans le cœur du sujet, il tourne toujours autour, avec énormément de délicatesse et de puteur et de distinction. C'est pas Ousloun, ça nous l'avons compris. Mais néanmoins, jamais il ne s'affronte, il ne confronte vraiment son film à une certaine réalité. Et du coup, moi, j'ai pas été ému, je suis ravi que les gens aient pleuré, mais peut-être y avait-il un truc dans la climatisation ce soir-là.
Hein. Eric.
C'est beaucoup moins fort que Girl, mais c'est un joli film hein, quand même, plein de pudeur, comme dit Xavier, baigné un peu trop dans le jus d'orange, la pellicule, ça c'est un petit peu gênant, mais ce qui est louable, c'est qu'il évite un peu tous les clichés et ces ellipses dont tu parlais, je trouve qu'elles donnent une certaine puissance au film, qui est un peu languissant sur la fin quand même, avec quelque chose qui... Mais à part, moi ça m'a pas du tout ému, mais ça m'a beaucoup intéressé.
Il y a beaucoup derrière, entre parenthèses, de jeunes garçons de dans les films. Je pensais au James Gray aussi, oui, avec deux jeunes comédiens du même âge.
C'est pas la même chose.
Michel.
Oui, alors d'abord, on ne l'a pas signalé dans la presse, c'est le triomphe de la Belgique.
Mais si, je l'ai rappelé au début, la Belgique
trois
a raflé
belges,
hier soir...
Trois films belges, beaucoup plus que la France.
Trois prix.
Trois films belges qui sont au palmarès, ce qui est assez exceptionnel. Je pense que outre Kivra, on va le fêter. Moi, j'étais très déçu par le film aussi, par cet esthétisme.
Vous vous rendez compte que vous parlez des deux grands prix quand même de ce palmarès.
Un esthétisme un peu dégoulinant, avec des courses dans les champs, avec les fleurs, les lumières irisées. Alors que j'avais beaucoup aimé son premier film.
Girl, oui.
Là aussi, c'est un film qui est décevant.
Eh bien, nous parlions avec bonheur des deux grands prix du palmarès, c'est-à-dire Claire Denis et Lucas Donte. Le prix de la mise en scène, toujours très attendu, a été donné à un autre film inter, m'a assuré Françoise Bonnet. C'est le film de Park Chan-wook, le coréen, bien sûr. Film qui, lui, sortira au début du mois de juillet, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un des premiers qu'on pourra voir au cinéma pour... Decision to Leave, décision de quitter, où un détective enquête sur la mort d'un homme et il tombe amoureux de la femme du défunt, qui est aussi la principale suspecte. Prix de la mise en scène légitime, justifié, Michel ?
Totalement. Il y en a d'autres qui étaient très bien mis en scène, mais il fait partie des films où il y a vraiment un metteur en scène. Alors Park Chan-wook, c'est vrai, ses films précédents étaient beaucoup plus spectaculaires, avec des effets qu'on pouvait ne pas aimer. Et là, il y a une rigueur dans la mise en scène, dans les cadres, la façon de filmer, et aussi peut-être d'un scénario un peu trop compliqué, où on se perd un peu. Mais c'est vrai que c'est à la fois un film criminel et une romance. C'est très Hitchcockien, on pense à Vertigo, on pense aussi à Pandora, ça fait partie de ces films qui ont une sorte de romantisme et avec en même temps une rigueur de mise en scène qu'on n'avait pas jamais vue à ce point chez Park Chan-wook.
Xavier,
moi je suis à la fois agréablement surpris en tant que spectateur et un petit peu déçu quand même par le Park Chan-wook. Michel a raison, il y a une beauté de la mise en scène mais qui finit par étouffer constamment le propos. Il ne peut pas supporter qu'il n'y ait pas un plan sans une idée, sans une trouvaille, sans quelque chose d'inventif et de surprenant. Et du coup effectivement il égare sa structure narrative qui n'est rien d'autre qu'une histoire de veuve noire. On se souvient du film dans les années 80 avec Debra Winger. Effectivement, elle tue ses hommes, ses maris, ou elle se débrouille pour les éliminer. Et elle attrape dans son filet d'araignées venimeuses le pauvre détective qui n'est plus que l'instrument de son crime. On a vu ça mille fois et j'aimerais que Park Chan-wook qui fait un peu plus de choix.
C'est pas le prix du scénario, hein, mais de la mise en scène.
Oui, oui, mais justement, mais c'est le propos. Oui, c'est-à-dire que comme le scénario est un petit peu facile, enfin, un petit peu léger, la manière dont il greffe constamment, comme ça, une mise en scène, rien tape à l'œil, moi, m'a un tout petit peu sorti régulièrement du plaisir que j'éprouvais.
Mais dis-moi, t'as pas eu un bon festival?
Non, mais je l'ai dit au début.
Mon petit Xavier.
Il est bon son.
Non, hein. Non. Comme en plus, ils ont pas récompensé les films que j'ai aimés, je me sens tout seul ce soir.
Et surtout qu'au jury, il manquait qui?
Ah bah Mylène Farmer, moi je pense qu'il fallait, il faut la garder année après année.
Voilà, parce que tu... voilà. Elle a sauvé ton dernier festival, hein, je te rappelle. Charlotte.
Oui, oui, bah, très très grand metteur en scène. Je parlais tout à l'heure des films qui soulèvent tout le monde et font l'unanimité. Moi, je me souviens de Old Boy, la présentation de Old Boy à Cannes, où on était tous persuadés qu'il aurait la panne, ou en tout cas, on l'espérait. Il est pas arrivé loin puisqu'il avait eu le grand prix de mémoire, mais ça avait été quand même une petite frustration et il est grand temps de saluer et de récompenser cet immense metteur en scène. Mais je suis comme Xavier, un peu frustrée par le scénario qui est très emberlificoté sur la fin. Il nous perd un peu, je trouve, sur la dernière demi-heure, mais le film est quand même sublime. On se laisse happer. Effectivement, chaque cadrage, chaque lumière, les comédiens aussi sont absolument magnifiques. Mais je n'ai pas eu, le coup de poing que j'avais eu sur ces autres films, que ce soit Mademoiselle, Lady Vengeance ou Old Boy. Là, ça pêche un peu par le scénario dans cette dernière partie.
Eric.
Je sais pas, le scénario, je sais pas si ça pêche, mais c'est un des rares cas où on comprend absolument rien, enfin très peu de choses, et on ne s'ennuie pas une seconde. Donc, c'est que c'est la mise en scène qui enrobe tout ça, qui vous envoûte.
C'est quand même pas si compliqué que ça.
Il y a des trucs, j'irai le revoir pour tout piger.
Non, mais Eric a eu un très bon festival.
Ah, oui, à moitié. Mais
c'est influenceur, maintenant. Je te le rappelle. La Palme d'Or, c'est eux qui l'ont
mis. Mais j'aimerais t'influencer davantage.
Vous avez peu de chance.
Si vous pouvez imaginer ce que c'est un Basic Instinct élégant.
Voilà.
Un peu.
Eh bien, c'est donc décision de quitter. Je ne sais pas quel titre ils vont garder de Park Chan-wook, qui est donc le prix de la mise en scène. Le prix du scénario, j'en parlais à l'instant, il est allé à Tariq Saleh, ce Suédois d'origine égyptienne, à qui on doit ce film que j'avais adoré, qui est Le Caire confidentiel, il y a quelques années. Et là, pour un film qui sortira le 9 novembre, qu'on pourrait traduire par Le Garçon du Paradis, je ne sais pas comment, là encore, ce que sera le titre final. Tous les titres sont en anglais et tous changent évidemment, quand ils apparaissent sur les écrans français, et qui nous plonge dans l'université Al-Azhar du Caire, qui est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Film que Eric, qui est décidément le grand influenceur, il faut le dire, de ce festival,
je ne sais même pas ce que c'est.
A beaucoup aimé.
Et oui, beaucoup, parce qu'on découvre...
T'as été lucide, une fois pendant le festival de Cannes.
Ah, tu vois, ça m'arrive par inadvertance. Non, mais on découvre tout un univers qu'on connaissait très mal. Cette université qui est un peu l'équivalent pour l'islam de l'ENA ou d'Harvard pour les autres pays. Et c'est un mélange à la fois du prophète... Non, mais on voit que le grand imam de cette université est pratiquement l'équivalent du président du pays.
Non, c'est l'équivalent du pape.
Ah bah, c'est encore mieux.
C'est religieux. Contrairement à l'ENA.
On voit que la puissance règne beaucoup et ce qui s'y passe à l'intérieur est très très bien raconté. Et un infiltré là-dedans, ce qu'il faut faire pour percer les secrets et l'intérêt que le gouvernement a à manipuler l'élection du prochain imam, moi ça m'a vraiment passionné. Peut-être que la mise en scène n'est pas formidable.
Bah, ça tombe bien, il a eu le scénario.
Ouais, bah, voilà. Souvenez-vous de la mise en scène et
le
du rythme
confidentiel, ouais.
Du Caire confidentiel, c'était tout à fait épatant. Michel.
Moi je trouve le film très bien mis en scène, même peut-être plus rigoureux que le précédent. Je trouve qu'il y a une précision dans la description des lieux, dans la façon de reconstituer Istanbul. En fait c'est le Caire, mais c'est tourné à Istanbul. Il a réussi à nous tromper, puisqu'il n'a pas le droit. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est un cinéaste d'origine égyptienne qui travaille au Danemark, je crois.
Non, en Suède.
En Suède, comme un autre cinéaste iranien qui travaille dans un pays scandinave également. On voit bien que le cinéma ignore les frontières, que les gens tournent.
Il y a même des Belges qui tournent en France. Hein.
Oui, mais ça, Michel, oui, mais... c'est parce qu'il est considéré comme personnalité indésirable dans son pays.
Il n'a pas le droit de revenir en Égypte. Les continuer à faire une carrière cinématographique dans des cultures complètement différentes de la leur.
Oui.
Et j'ai trouvé ce film, c'est un récit d'initiation. Le père envoie son fils à cette université Il travaille avec son père à la campagne, etc. Et puis, il va se retrouver comme une sorte de témoin de tas de manigances entre les différents, entre les islamistes, entre les gens beaucoup plus modérés, etc. Et c'est un thriller politique de grande qualité.
Merci Michel. Absolument. De rappeler un peu le contenu, parce que c'est vrai que
oui, mais c'est
une
même...
fois encore, on parle de films que nos auditrices et auditeurs n'ont pas et ne verront pas, en l'occurrence là, avant le 9 novembre. Charlotte.
Mais moi j'aime beaucoup le film aussi, et je trouve que le prix du scénario est le prix parfait pour le récompenser, parce que le scénario, on apprend beaucoup de choses, on est assez fasciné, et c'est un thriller politique et religieux. Il va quand même être question d'une taupe, d'aller espionner, enfin, donc on peut être vraiment pris, même si on n'est pas intéressé par l'aspect religieux, qui moi m'intéresse beaucoup dans ce film, mais il y a aussi quand même tout un ressort de thriller d'espion ou de double espion. Il y a beaucoup de tensions, on pense un peu au Nom de la Rose en fait, c'est le Nom de la Rose, mais version
version imam. C'est le Nom de la Rose à l'ENA, comme dirait.
Ouais, non, mais oui, ou John Le Carré. Et on est pris, il y a de la tension, on a peur pour ce jeune homme, c'est une jolie découverte.
Xavier.
Non, mais Eric n'a pas tort, c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation de l'Église, enfin, de la religion et de l'État dans ce pays-là, donc la nomination de ce nouvel imam devient effectivement un enjeu à la fois religieux et politique.
Tu viens de dire, Xavier, Eric a raison, hein, tu viens de dire.
Oui, oui, je sais, mais je retirerai les propos, je dirais qu'ils sont sortis du contexte.
Il croit qu'on n'est pas en direct.
Mais, voilà, du coup, j'ai perdu ce que j'avais l'intention.
Continue sur ta lancée, tu dis du bien de moi, ça va.
Il aime John Le Carré et ça se sent. C'est-à-dire que la triangulaire dans laquelle se retrouve englué le personnage principal, que l'on croit être un innocent, que l'on croit être un personnage facilement manipulable et qui va se révéler beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe qu'on ne le croit.
Bah, surtout et plus malin et plus malin, intelligent.
Absolument, oui,
plus
mais je ne pas trop en dire, Charlotte. Ouais, et ben, ça, effectivement, il y a un scénario formidablement écrit et je suis entièrement d'accord avec Michel. Il est très bien mis en scène. Ouais. La précision des cadres, des plans fixes, la manière dont il filme effectivement ces lieux clos, ces lieux secrets. Moi, je trouve que, oui, je suis comme toi, je trouve ça presque mieux que le Parc Chaloux.
Il filme comme un échiquier.
Eh bien, il n'a pas eu le prix de la mise en scène, mais du scénario.
Mais parce qu'il répond très très bien à la définition d'un excellent scénario.
Absolument.
Mais c'est ça le problème. Voilà. Il aurait mérité mieux.
Et il s'appelle Tariq Salé et attendait le 9 novembre pour le voir. Encore un prix ex aequo, le prix du jury. Le mariage étant assez surréaliste, il faut dire la vérité.
Improbable.
Encore nos amis belges, avec les 8 montagnes de Félix von Groningen et Charlotte van der Merch, qui est l'histoire d'une amitié, surtout dans des très beaux paysages du Val d'Aoste. Et de l'autre côté, des ânes, qui ne sont pas les ânes du Val d'Aoste, puisque c'est le film du polonais Jerzy Skolimowski, quand même, 84 ans. Toujours vif et qui nous raconte dans Eo ou Ian, plus exactement, le monde vu à travers les yeux d'un âne. Alors, il a beaucoup remercié hier soir les ânes, parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6 pour en faire un seul.
6,
excuse-moi Michel, excuse-moi. 6 ânes pour en faire un seul. Mais c'est vrai que le mariage du Val d'Aoste, des paysages et des ânes, ça fait quand même un drôle, non, Xavier, de ce
sentiment. C'est rigolo parce que dans ce prix du jury, on a le film le plus académique de la sélection, c'est Les 8 montagnes, qui est effroyable, qui est digne d'une soirée diapo, c'est-à-dire qu'on a des plans fixes avec une voix off qui nous explique que ce jour-là, ils ont réparé la maison puis qu'après, ils ont sorti une table dans laquelle on nous fait le coup du petit blanc, effectivement, qui a du mal à trouver un sens à sa vie et qui va au Katmandou et qui revient, évidemment, plein d'une expérience de vie. Il a quand même réussi à commander un expresso dans la langue locale, donc bravo l'intégration, qu'est-ce qu'il est fort, merci le petit blanc. Donc c'est effroyable, hein, disons les choses telles qu'elles
sont. Quand tu parles de petit blanc, j'ai l'impression que c'est du vin, moi.
Non, mais du petit caucasien, du petit occidental, et puis de l'autre côté, on a le film le moins académique, le plus fou, le plus flamboyant, le plus formidablement généreux, intelligent, impertinent, drôle, inventif. C'est Ian, effectivement, de ce que
Osé, surtout.
Osé, remake improbable du film de Bresson, quand même, hein, Au hasard Balthazar. Et c'est absolument, mais réjouissant de minute en minute. C'est désespéré, mais pas à la manière de Osloon. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus intelligent et beaucoup plus impliqué.
Avec une apparition fugace d'Isabelle Huppert.
D'Isabelle Huppert. Et je trouve simplement qu'il a été injuste, parce que quand il a récompensé et remercié Cézanne, il a oublié Eric Neuf, et moi je tiens absolument à rectifier cette erreur.
Alors sur ce double...
Je suis le septième âne.
Sur ce double prix du jury, Eric.
L'âne de Skolimowski aurait dû avoir le prix d'interprétation masculine parce qu'il écrase tous ses concurrents humains.
Mais il y en a 6, je te dis.
Mais oui, mais aussi, et au lieu de leur donner une statuette, une botte de carottes, ils auraient été ravis.
Cela dit, Skolimowski était très très drôle parce qu'il a pris un ton imperturbable et solennel pour remercier ses ânes hier soir.
Non, mais le film est d'une intelligence, il y a une croyance en les pouvoirs du cinéma, du son, de l'image, du montage, de ses gonflés. Le pauvre film de Bresson a côté, c'est de la crotte de bique, si, pour rester dans le domaine animalier. Et je ne déteste pas le film...
T'as failli te dire, t'as failli ne pas dire de conneries, tu te rends compte
hein. À l'époque où il n'y a plus que des photos, enfin des Instagram, une séance de diapositives, moi ça me plaît pas si mal, avec ce côté Manuel de Castor Junior, comment on construit...
Là tu parles des 8 montagnes, là.
Oui. Mais c'est le premier film que j'ai vu, et j'ai été étonné de supporter d'emblée un film de 2h20 qui se passait dans les montagnes, et encore pire,
parce que,
par moments...
Oui, parce que c'est long, hein, quand même.
C'est très long,
c'est long,
Charlotte.
Alors, moi j'ai pas vu le Skolimowski, et je regrette, je le rattraperai, mais en fait ce double prix me fait vraiment penser à ce qui s'était passé en 2014, où aussi le prix du jury avait été séparé, donné ex aequo à Xavier Dolan pour Mummy, et à Jean-Luc Godard pour Adieu au langage. Donc c'était aussi un attelage de la jeune génération et du patriarche référentiel, on va dire, ou comme s'ils n'avaient pas réussi à trouver un autre moyen de les récompenser. Et là, ça me fait un peu le même effet, sauf qu'effectivement, les 8 montagnes, je ne suis pas du tout aussi sévère que Xavier. En dehors de la longueur du film, je trouve qu'il y a quand même des très jolies scènes, que les comédiens sont formidables, autant enfants d'ailleurs qu'adultes.
Et encore une histoire d'amitié.
On suit une amitié entre deux hommes sur à peu près, je ne sais pas, une quarantaine d'années ou un petit peu moins. Est-ce que ça nécessite 2h20, certainement pas, mais le film n'est pas du tout à jeter, comme l'a dit Xavier. Il y a des très beaux moments et je ne me suis pas tant ennuyée que ça.
Michel ?
Non, j'ai trouvé les 8 montagnes un film très convenu qui ne crée pas du tout une poésie. Il y a une volonté de poésie, mais il n'y a pas de poésie. Par contre, le Skolimowski est exceptionnel parce que d'abord, on pense que Skolimowski, quand il avait 24 ans, révolutionnait déjà le cinéma avec ses premiers films comme Walkover. Et 60 ans plus tard, il bouleverse tout le monde. Alors, à mon avis, la qualité du film vient aussi du fait que Skolimowski, au début de sa carrière, il était dans la vitesse, un peu à la Godard. C'était des films très rapides, les gens bougeaient tout le temps, etc.
Ah oui, le film avec Jean-Pierre Léo, le départ.
Bien sûr.
Formidable.
Mais bien sûr, il a fait de très mauvais films, mais aussi des chefs-d'œuvre. Et aujourd'hui, à cet âge-là, à 84 ans, il nous fait un film qui est influencé par sa peinture. Parce que depuis 20 ans, Skolimowski peint en Californie. Il était en exil, il vivait en Californie. Il a fait de la peinture, il a exposé ses toiles. Et donc, c'est pas du tout le côté bressonien du film. Le film n'a rien de bressonien. C'est pas du tout un remake, mais c'est un film, au contraire, qui est fait sur l'hallucination. Il y a un côté kubrickien, c'est-à-dire il y a des visions. On se promène dans un abattoir, on se promène dans un cirque, et c'est comme des visions à la Kubrick, comme dans 2001, le voyage dans l'espace.
La satire du football et des supporters de foot est absolument... Prix du jury ex aequo donc pour Jerzy Skolimowski, Ian, et donc pour les 8 montagnes du couple belge. Je peine toujours à comprendre à 20h47 quel est exactement l'esprit, le goût de ce jury d'hier soir. Vite, on évoque les deux grands prix d'interprétation. Féminine d'abord, qui est allée à Zahr Amir Ebrahimi pour son rôle de journaliste dans le film Les Nuits de Machad, d'Ali Abazi, qui est un film dont la sortie est déjà annoncée pour le 13 juillet, qui raconte une histoire qui est vraie, et qui est absolument hallucinante, puisqu'un père de famille décide de purifier sa ville, donc la ville de Machad, en tuant les prostituées, 16 prostituées. Et donc, Zahr Amir Ebrahimi joue la journaliste qui va aller sur place pour enquêter, non sans difficulté, sur cette histoire. Charlotte ?
Moi, je n'aime pas beaucoup le film, et elle est bien dans le film. Elle a un rôle quand même très en retrait, un petit peu mineur, on s'en souvient pas. Donc, j'ai vraiment l'impression que le jury a voulu saluer le parcours de la comédienne, de son exil en Iran et de sa vie personnelle, beaucoup plus que ce rôle dans le film. Je n'arrive pas à croire qu'on décerne le prix d'interprétation féminine à cette actrice pour ce rôle dans ce film. Je n'y crois pas une seconde. Et là, j'ai un peu mal pour Aliona Mikhailova, qui était la merveilleuse comédienne du Serebrennikov, ou de Leïla, pour Leïla et ses frères, qui le méritaient doublement.
Comédienne qui d'ailleurs...
Mais je pense qu'on salue son courage
qui d'ailleurs
et son
a fait
destin.
Un beau discours hier soir où elle a salué les Français qui sont si heureux d'être malheureux.
Absolument, mais c'est politique.
Xavier.
Outre le fait, effectivement, comme Charlotte l'a dit, que le rôle est très mineur, très très mal écrit, très vite en retrait d'un autre personnage qui est celui du serial killer, du meurtrier en série, c'est un film, c'est un téléfilm de piètre qualité, extrêmement complaisant dans la manière de filmer la violence et les morts des femmes quand même. On est très très loin de ce que Hitchcock faisait dans Frenzy par exemple, et c'est un film qui ne méritait absolument pas, d'aucune manière que ce soit, de monter au palmarès.
Eric ?
Pareil, parce que c'est quand même une fille qu'on avait complètement oubliée. Elle joue encore un peu moins mal que son homologue masculin, mais ce qui est rassurant, c'est de voir que les Iraniens ont aussi le droit de faire de très mauvais films.
Alors, je suis pas sûr qu'il sortira en Iran, ce film. Michel,
en France,
ce qui est étonnant, Michel, c'est que la moitié du jury était composée de comédiens. C'est toujours trop. J'aime beaucoup les comédiens, mais c'est pas des arbitres automatiquement les meilleurs. On a l'impression qu'ils ont couronné deux acteurs très moyens. L'acteur du film.
On va en parler rapidement, mais la question posée sur l'actrice.
On se souvient iranienne. À peine de son rôle, alors qu'il y avait l'extraordinaire comédienne que Charlotte a citée dans le film de Serebrennikov, une performance, la femme de Tchaïkovski, une performance extraordinaire qui est complètement oubliée.
Aliona
qui avait le défaut
et donc,
d'être
le prix d'interprétation masculine est allé à Song Kang-ho pour sa prestation dans le film de Kore-eda, Les Bonnes Étoiles, où une femme abandonne son bébé avant que deux hommes le récupèrent pour lui trouver une nouvelle famille.
C'est la carrière là aussi, c'est la carrière qu'on voilà, il a explosé avec Parasite, mais c'est clairement pas pour ce rôle non plus qu'on peut le récompenser. On salue le grand acteur qu'il est.
Eric.
Voilà.
Oui, Charlotte a raison, c'était quelqu'un à qui Cannes réussit. Il était dans la Palme d'Or et là, il a le prix d'interprétation. La prochaine fois, je ne sais pas ce qui va se passer.
Michel.
Oui, il y avait un acteur prodigieux qui était l'acteur de Mario Martone, l'acteur italien qui jouait le traître de Bellocchio.
Pier Francesco Savino.
Merci beaucoup. Et on a choisi cet acteur coréen qui effectivement, on respecte sa carrière, mais enfin, il a rien de particulièrement brillant dans ce film.
Xavier.
Là aussi, c'est pour faire monter le Kore-eda au palmarès. Alors, c'est un petit peu moins infamant que le film précédent, le film iranien.
Bah oui.
Mais
infamant.
Ah, si. Le film iranien, là, Les Nuits de Bachdad, je sais
pas. Tu peux pas les comparer.
C'est effroyable. Mais voilà. Donc, le film de Kore-eda n'est pas son meilleur, c'est un film plutôt agréable. Mm. Mais le problème, c'est que c'est un film choral. C'est-à-dire qu'il y a quand même 5 acteurs principaux. Récompenser un acteur au détriment des autres me semble effectivement être un renvoi d'ascenseur qui n'est pas injustifié mais qui n'est pas non plus complètement mérité.
Donner au bébé.
Vous n'êtes pas des fans de ce palmarès, je vois. Et on termine avec, rapidement, avec ce prix inventé, le prix du 75e festival, pour donner un 8e prix aux frères d'Ardenne, Jean-Pierre et Luc, dont je rappelle qu'ils sont déjà 2 fois palmés pour Rosetta et pour l'enfant, et qui dans Tori et Lokita donc raconte le destin de ce garçon et de cet ado venu d'Afrique et qui débarque en Belgique, puisque la Belgique est le pays de ce palmarès. Eric ?
La Belgique a 2 plaies fatales, c'est Molenbeek et les frères d'Ardenne. Et ce film...
Non, tu peux pas dire ça.
Mais si, je peux dire ça. Ce film est une souffrance et une caricature de tout ce qu'on n'aime pas chez les d'Ardenne. Là encore, il ne leur arrive rien de bien, rien de plaisant. 24 heures sur 24, le malheur leur tombe dessus. Et on raconte...
Mais ça arrive.
Il y a toujours dans la vie un petit moment, même quand c'est tragique, où il se passe quelque chose de souriant. C'est pas ça la vie.
Ce qui se passe là, c'est leur amitié, leur besoin d'être ensemble.
Et leur donner un nouveau prix concret pour la circonstance, c'est complètement absurde. Mais vous verrez que pour le centenaire du festival, ils auront encore quelque chose, même à titre posthume.
Xavier.
C'est pas le meilleur des films des Dardenne, nous sommes entièrement d'accord, mais néanmoins, je ne l'ai pas trouvé agressif. Moi, je le trouve souvent juste dans sa manière de dépeindre à la fois l'amitié de ces deux enfants qui se font passer pour frères et sœurs. Mais bon, sans éventer un immense secret, on sent que quand même la filiation est plus affective qu'autre chose. Et il y a des choses, moi, je trouve très justes, effectivement, sur la difficulté de s'en sortir, sur le fait qu'ils tombent dans des trafics, même s'ils essayent de rester à distance. Il y a toujours une certaine justesse dans la manière de filmer ces personnages. Il y a effectivement un petit problème, la toute dernière séquence qui semble être pour les mal comprenants, qui nous explique bien ce qu'il fallait comprendre, la morale de cette histoire. On aurait pu s'en
c'est
passer.
C'est toujours un peu le cas chez les Dardenne.
Toujours.
Dit, hein.
Mais
toujours
honnêtement, par rapport à tous ces films agressifs, interminable, qui voulait absolument nous regarder de haut et nous donner des leçons et des petits coups de règle sur les doigts, et ben moi je suis assez reconnaissant aux Dardennes d'avoir une autre manière de nous faire regarder le monde.
Mais le film, il est juste, il est digne, et ils arrivent quand même avec le minimum d'effets. Les acteurs sont déments, et dans l'épure et le minimalisme, ils arrivent, je trouve, à nous toucher en plein cœur. Ils ont tout eu à Cannes, donc là c'était le seul prix possible, ce prix du 75e, et je trouve Eric invraisemblable sur ce film-là, parce que enfin, non, quoi, le film est très émouvant.
Mais pourquoi leur donner encore un prix? Ça devient ridicule.
Et ben pourquoi donner une deuxième palme à Ruben Östlund 4 ans après?
Merci, merci.
Voilà.
Michel.
Oui, non, mais les Dardennes filment à l'os. C'est-à-dire, il n'y a rien de trop.
Voilà, il n'y a pas de gras, quoi.
On peut comparer avec Bresson. C'est-à-dire, on dit qu'ils font toujours le même film, parce que je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas toujours le même film, comme Bresson faisait toujours le même film. Ils ont un univers, ils ont une façon de filmer qui est absolument... Et dans tous ces films qui plaisent aux sélectionneurs et aux jurys sur l'amitié entre des adolescents, c'est le meilleur des trois. Enfin, c'est beaucoup mieux que Les Huit Montagnes, c'est beaucoup mieux que Klaus. C'est un film réussi sur le même thème.
Tori et Lokita des Frères Dardenne, qui a donc reçu le prix du 75e Festival de Cannes, dont on vient de vous commenter le palmarès. Une petite poignée de minutes, vous me dites juste quelle a été votre plus grande émotion et peut-être votre plus grand regret de ce palmarès, Charlotte.
Alors mon plus grand regret du palmarès, c'est l'absence totale de Christiane Mungiu. Je trouve le film extrêmement fort, RMN. Il parle de la Roumanie, un petit village en Transylvanie dans lequel arrivent 300 papiers du Sri Lanka, et ça va un peu mettre le feu aux poudres et réveiller la xénophobie et le racisme rampant. Je trouve le film extrêmement fort. Et puis l'absence du Serebrennikov, que je ne m'explique pas autre.
Donc sur la femme de Tchaïkovski.
La femme de Tchaïkovski, absolument, qui retrace le destin tragique de la femme de Tchaïkovski.
Le cinéaste russe qu'on retrouvera d'ailleurs, chère Charlotte, au Festival d'Avignon.
Puisqu'il fera l'ouverture dans la cour d'honneur. Avec le moine noir, et c'est décidément un grand cinéaste, un grand metteur en scène de théâtre.
Xavier.
De regret, l'absence du film de James Gray, Armageddon Time, au palmarès, parce que c'est un film...
Peut-être le plus personnel de James
Gray. Plus personnel, auquel on a reproché en sortant, mais ça c'est des filles canois, peut-être le manque d'ampleur, c'est faux. Le film décante remarquablement, il y a une complexité, une intelligence de l'écriture qui va de l'intime jusqu'au politique, puisqu'on ne s'arrête pas dans les années 80, et qu'il filme clairement le déclassement officialisé par le gouvernement de Reagan des populations noires. Et ça c'est montré, et c'est dit, donc c'est indispensable. Et puis moi, mon préféré, c'est Leïla et ses frères de Saïd Roustaé, cinéaste qu'on avait vu l'année dernière avec un film absolument génial qui était La Loi de Téhéran, et qui fait un immense mélo tchékovien de 1945, remarquablement écrit, interprété et mis en scène.
Et qui sortira fin août, La Loi de Téhéran, pour lequel le masque avait été dithyrambique,
il faut qu'on le demande à Asghar Farhadi.
À mon tour d'être influencé par Xavier, je suis d'accord avec lui, James Gray, qui aurait dû être au palmarès, parce que c'est un mélange des 400 coups et d'Au revoir les enfants. Et c'est vraiment une injustice qui n'a rien eu, même pas le prix du 75e.
Michel.
Mais alors moi, je suis d'accord avec les choix qui viennent d'être dits, des très grands films oubliés par le palmarès, aussi bien mentionnés par Charlotte, par Eric et par Xavier. Alors moi, je voudrais signaler un autre film aussi, de Mario Martonet, grand cinéaste italien, qui s'appelle Nostalgia, qui est un film sur le retour à Naples d'un Napolitain qui a quitté son pays il y a 40 ans pour aller vivre dans un pays musulman. Il s'est converti à l'islam et il revient, et tout le passé revient. Une façon de filmer Naples absolument magnifique. Voilà encore
merci
un grand film oublié.
Merci à vous tous. Merci Michel, Simon, Charlotte, Lipinska, Xavier Le Herpeur et Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Sella, mais ce soir en direct à la technique, à la maison de la radio, et je le remercie, il y avait Mathias Alléon, la réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du masque, eh bien, il aura lieu jeudi prochain, le jeudi 2 juin, je vous attends à 19h, très nombreux, au théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour une seule émission consacrée encore une fois au cinéma. Dans une semaine, on parlera donc de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.